Chapitre 58. Dans la nuit silencieuse, la grande vallée dévastée évoquait un temple de la mort alors qu'elle aurait dû pétiller de vie. Victoria en bouillait de rage. Tout autour d'elle, il aurait dû y avoir des forêts luxuriantes, des prairies d'herbes hautes et des champs cultivés alignés à l'infini. Roland était responsable de ce désastre, un monstre voleur de vie. Même si Nietzsche l'avait éliminé, ce n'était qu'une part de la solution, et Victoria n'était pas du genre à se satisfaire de demi-mesure. Dans le complexe, des crétins se congratulaient, mais le travail restait loin d'être achevé. Tant que ça ne serait pas fait, elle ne connaîtrait pas de repos, car personne d'autre qu'elle n'aurait le courage d'agir. Avec ses trois fidèles acolytes, elle avait quitté Surplomb du Monde un soir, direction l'ancienne tanière du buveur de vie. Les yeux brillants d'espoir, Audrey, Laurel et Sage brûlaient d'envie d'aider leur chef. Bien que le voyage leur ait pris 2 jours, Victoria ne leur avait pas tout dit sur l'objectif de leur expédition, mais elle ne doutait pas que ses acolytes consentiraient à tous les sacrifices pour sauver le monde.
« Nous ne sommes pas ici pour améliorer notre propre sort, » avait-elle dit le premier soir. « Notre triomphe sera celui de tous les êtres humains. »
Le deuxième jour, juste avant la tombée de la nuit, le quatuor avait atteint sa destination. Un champ de bataille jonché d'éclats de roches, de cadavres de scorpions géants et de restes de morts vivants desséchés. Un lieu terrifiant, mais également sacré. Victoria conduisit ses acolytes devant l'arbrisseau.
« Il semble si petit et si frêle, » souffla Sage. « Mais il détient le pouvoir du premier arbre, »
rappela Laurel.
« Non, »
corrigea Victoria.
« Le pouvoir du monde. Sa magie ayant été consumée durant la bataille, il ressemble à un arbre normal. Pourtant, il reste un symbole. Et nous sommes en mesure, toutes les quatre, d'attiser cette flamme pour en faire un feu de joie en l'honneur de la vie. Voulez-vous m'aider? Êtes-vous prête à invoquer la magie requise ?»
Les trois femmes hochèrent la tête sans hésiter. Victoria n'en avait jamais douté. Debout devant l'arbrisseau, sous la lumière de la lune, elle défit les lacets de sa robe, la retira et la jeta au loin sur un des blocs d'obsidienne déchiquetés. Nue comme au jour de sa naissance, elle inspira profondément puis frissonna à cause de l'air frais de la nuit.
« Déshabillez-vous aussi, » dit-elle à ses acolytes. « Vous incarnez la vie et sa fertilité. Pour participer à cette célébration sacrée de la création, vous devez être nus comme à l'instant de votre venue au monde. »
Les trois jeunes femmes obéirent, révélant les corps parfaits que leurs tuniques blanches dissimulaient d'habitude. Une peau laiteuse, des seins gonflés de sève, des hanches aux courbes sublimes. D'instinct, toutes les trois défirent leurs cheveux. Tel le reflet du triangle soyeux niché entre ses cuisses, les cheveux noirs d'Audrey parurent se fondre à la nuit. À la lueur de la lune, la crinière blonde tirant sur le roux de Laurel brilla comme de l'or. Fièrement dressée à cause du froid, les tétons sombres de Sage vibraient du désir de créer une nouvelle vie. Tant de beauté coupa le souffle à Victoria. Ces trois acolytes étaient l'incarnation même du principe féminin universel, une image de la vie elle-même. Dans un lointain passé, Victoria était comme elle. Les hommes la désiraient, mais à ses yeux un seul existait, Bertram. Avec un soupir, elle se souvint du soir où, pour la première fois, il l'avait emmenée dans un verger par une nuit sans lune. Le bruit d'un cours d'eau cette nuit-là avait à peine suffi à couvrir ses cris de plaisir. Lui volant d'abord un baiser, Bertram s'était ensuite emparé de sa virginité, façon de parler puisqu'elle la lui avait offerte de tout son cœur. Un moment parfait. Après cette révélation, Victoria n'avait jamais imaginé qu'un autre homme pût la rendre heureuse. Un mois après, elle avait compris qu'elle était enceinte. Rien d'étonnant puisque Bertram et elle étaient très souvent retournés dans le verger. Puisant les mots dans leur mémoire, ils avaient alors récité les antiques vœux de mariage. 2 mois plus tard, après des douleurs impensables, Victoria avait perdu le bébé, un fœtus pas plus grand que son index et qui ne semblait même pas humain. Tout ça dans la souffrance et au prix d'un torrent de sang. Bertram était resté avec elle. jurant qu'ils auraient d'autres enfants. Mais ça n'était jamais arrivé. Se découvrir inféconde avait été le plus grand échec de Victoria et sa pire déception. Malgré ses efforts et ceux de son mari, rien n'était jamais sorti de son ventre. Elle aimait Bertram, mais au fil du temps, leurs rapports amoureux avaient tourné au devoir conjugal, sans espoir pour ne rien arranger. Afin de compenser, Victoria était devenue la mère spirituelle de ses acolytes, en particulier de ces trois-là, à cause de leur incroyable beauté. À l'entendre, elle avait plus d'enfants qu'elle n'aurait jamais pu en faire. Mais ça ne convainquait personne, et surtout pas elle-même. Après avoir invoqué le sort de fertilité, ce soir, elle serait la mère du monde entier. Même si le prix à payer était élevé, comment aurait-elle pu hésiter une seconde? La magie des hommes est celle de la mort, des conquêtes, de la chasse et du meurtre, dit-elle. Au cœur du cratère, sa voix résonnait étrangement. Celle des femmes, c'est la vie, et elle est bien plus forte. Victoria sourit à ses trois acolytes. Splendides dans leur nudité, Audrey, Laurel et Sage haletaient d'excitation. Bougeant lentement, elles ondulaient des hanches et sautillaient d'un pied sur l'autre. Peut-être parce que la magie l'amplifiait, l'odeur de leur sueur et de leur parfum emplissait l'air qui semblait réchauffé par leur chaleur corporelle. Baissant la main, Audrey toucha son émouvant triangle et poussa un petit cri. Tenté, Laurel et Sage l'imitèrent. La nuit elle-même se chargea d'un potentiel vibrant. La vie. Même l'arbrisseau sembla y être sensible. Le cœur brisé, Victoria dut lutter contre la détresse qui menaçait de miner sa détermination. Alors que les trois jeunes femmes attendaient, les yeux mi-clos en gémissant de plaisir, Victoria sortit d'une poche de sa robe une fiole remplie d'un liquide bleu.
« Vous devez en boire, » dit Victoria. « Une goulée devrait suffire. »
Audrey tendit une main pour prendre la fiole. De ses doigts humides, elle retira le bouchon.
« Qu'est-ce que c'est ? Un composant essentiel du sort. Bois !»
Audrey obéit, puis passa la fiole à Laurel qui la regarda un moment.
« Si tu es sûre, Victoria ?» « Je suis sûr. J'ai réfléchi le temps qu'il fallait. Nous devons rendre la vie à cette vallée, et c'est le seul moyen. »
Laurel but, puis Sage vida la fiole sans hésiter. Le cœur lourd, Victoria regarda ses trois acolytes tituber et s'écrouler. Elles étaient si confiantes. Sans perdre de temps, elle les tira à côté de l'arbrisseau. À présent, elle pouvait se permettre de pleurer puisque ses filles n'étaient plus conscientes. D'une grande poche secrète de sa robe, elle sortit des liens de cuir et lia les poignets et les chevilles des trois beautés. Dans leur sommeil induit par la drogue, Audrey, Laurel et Sage haletaient bizarrement, mais elles se réveilleraient bientôt et Victoria avait d'autres préparatifs à compléter. Reproduisant ce qu'elle avait mémorisé dans un antique grimoire et recopié sur une feuille de parchemin pour plus de sécurité, elle dessina sur le sol un sortilège, dont les symboles et les runes, composant d'un très vieux langage oublié, entourèrent bientôt les trois acolytes. Trois graines. Voilà ce qu'étaient devenus Audrey, Laurel et Sage. La semence d'une nouvelle vie dont la puissance serait inimaginable. Mais comme toujours, il y avait un prix. La vie pour la vie, le sang pour le sang. En se répétant que l'enjeu en valait la chandelle, Victoria finit de dessiner le sortilège. Le texte ne laissait aucun doute. De ces trois gouttes de vie naîtrait un torrent intarissable qui restaurerait la vallée et guérirait la blessure infligée au monde. Mais Audrey, Laurel et Sage... Quelle perte! Victoria éclata en sanglots. C'était déchirant, pourtant il fallait le faire. Quand elle se fut reprise, la mémoriste vit que ses acolytes s'étaient réveillés plus tôt que prévu. Encore sonnées, elles étaient conscientes ainsi que l'exigeait le sortilège, et consentantes.
« Que fais-tu ? » demanda Laurel. « Que se passe-t-il ? Vous allez nous sauver tous, mes chéris. »
Des larmes roulant sur les joues, Victoria dégaina son couteau et s'accroupit près des acolytes. Les yeux écarquillés, Sage frémit d'horreur quand la femme qu'elle aimait comme une mère lui ouvrit la gorge. Un geyser de sang jaillit de la plaie, inondant la belle poitrine de la sacrifiée, puis venant nourrir la terre.
« Je suis désolée, »
dit Victoria avant de passer à Audrey. La prenant par les cheveux, elle l'égorgea aussi. Laurel défia sa mère spirituelle du regard et se battit dans ses liens, mais sa résistance ne dura pas. Avec un coup d'œil pour ses amies moribondes, elle souffla.
« Jure-moi que c'est nécessaire. Il n'y a pas d'autre moyen. »
Laurel leva le menton et Victoria égorgea sa troisième et dernière victime. Quand les acolytes eurent fini de se vider de leur sang, leur bourreau gémit de détresse.
Des fidèles si loyales, presque ses filles, et elle venait de les tuer. Au nom de la vie, mais quand même.
Victoria activa le sortilège. Un flot de fécondité jaillit des trois cadavres, assez fort pour animer les forêts, les prairies, les cours d'eau et les champs cultivés. Au-dessus des trois sacrifiés, Victoria récita l'incantation qu'elle avait mémorisée avec sa perfection habituelle. Comme de la cire fondue, le sang des trois mortes vint se mêler aux runes et brilla plus fort que de la lave en fusion. Puis il se transforma, se régénéra et, virant au vert, imbiba le sol dévasté qui commença à se réveiller. Des pousses apparurent un peu partout autour de l'arbrisseau. Puis des fleurs jaillirent du sol. Émerveillée, Victoria recula de quelques pas. Stimulée, l'arbrisseau grandissait à vue d'œil et ses branches se tendaient vers le ciel comme des bras implorants. Très vite, elles se chargèrent de feuilles luxuriantes. Au pied de l'arbre, des champignons poussèrent en accéléré, puis éclatèrent en un nuage de spores qui donnèrent aussitôt naissance à une nouvelle génération de nobles moisissures. Sortie d'un long tunnel, la terre ondulait et se craquelait. Née une minute plus tôt, des insectes rampaient sur le sol et le bourdonnement des abeilles emplissait les oreilles de Victoria. Les yeux ronds, elle admira les papillons de nuit, puis s'emplit les poumons du parfum des fleurs, de l'arôme de la sève et des riches fragrances des feuilles. Tout au long des sillons creusés par le sang, des plantes émergeaient de la terre, fièrement dressées sur des tiges vigoureuses prêtes à affronter la formidable aventure de la vie. Des racines s'enroulèrent autour des trois cadavres, comme s'ils étaient devenus des trophées, les vibrants symboles de la Renaissance. Victoria eut du mal à en croire ses yeux. Un tel foisonnement de vie, et dire qu'elle en était à l'origine, cette renaissance, c'était son œuvre. Le sortilège qu'elle avait exhumé de sa mémoire se révélait assez puissant pour vaincre la désolation semée par le buveur de vie. À peine revenue, la forêt semblait avide de partir à la conquête de ses territoires perdus. Rayonnante de fierté, Victoria recula encore un peu. Quand les érudits verraient ça, puis comprendrait que c'était son œuvre. Toujours nue, elle resta où elle était, ivre de satisfaction. Quelle joie et quel soulagement de... Quelque chose s'enroula autour de sa cheville. Baissant les yeux, elle vit qu'il s'agissait d'une liane. Aussi rapide qu'une vipère, cette lanière de fouet végétal remonta le long de sa jambe et la serra de plus en plus fort. Victoria tenta de se dégager, n'y parvint pas et hurla de terreur. Tirant plus fort, la liane la força à avancer. Au-dessus de sa tête, d'autres tentacules végétaux se tendaient vers elle et des branches d'arbres qui n'étaient pas là 5 minutes plus tôt essayaient de la ceinturer. Elle lutta pour se libérer, mais une autre plante s'enroula autour de ses poignets. À présent, il en sortait de partout et ses tentacules en serraient désormais sa taille.
« Non, je... »
Le bout d'une branche s'engouffra dans la bouche de Victoria, puis s'insinua dans sa gorge. Alors qu'elle étouffait, des fougères vinrent se plaquer sur ses yeux. D'autres s'insinuèrent dans ses narines, puis se frayèrent un chemin dans son crâne. Bientôt, ses oreilles aussi furent assaillies et investies par des filaments végétaux. Aveuglée, sourde et muette, Victoria ne renonça pas à lutter. Comme les bras d'un puissant guerrier, des lianes lui écartèrent les cuisses.
Se débattant comme une folle, Victoria sentit qu'un dard végétal remontait le long de ses jambes. Sans l'ombre d'une hésitation, il plongea vers son intimité, s'y introduisit et l'emplit douloureusement. Victoria souffrit très longtemps, déchirée de l'intérieur. Jusqu'à ce qu'une liane transperce enfin son cerveau, délivrant son âme et offrant son corps en pâture à la voracité retrouvée de la nature.